Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle voix de Guillaume. Aujourd'hui, une petite réponse à Valentin qui m'a contacté, qui est un peu perdu dans le cadre de la préparation d'un podcast sur l'hébergement et la diffusion des épisodes. Alors, je reprends un petit peu son commentaire. Je souhaite lancer un podcast, mais je suis perdu au niveau de l'upload et sa propagation sur les différentes plateformes, plus mon site. Je ne comprends pas pourquoi utiliser Spreaker, par exemple. Je sais qu'Ophonic est un bon outil, mais je ne vois pas comment l'utiliser non plus. C'est vraiment l'upload qui me pose problème. Écoute, Valentin, je comprends ta confusion parce que c'est pas toujours hyper évident. Et c'est l'occasion pour moi de consacrer ce petit épisode de La Voix de Guillaume. Et je vais probablement aussi en faire un article sur mon site guillaumevendée.fr pour aborder ce sujet-là. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'hébergement, il n'y a besoin que d'un seul endroit, hein, que d'un seul emplacement où héberger tes fichiers. C'est un petit peu comme un site web. Tu mets tes pages web quelque part. Alors, tu peux les mettre sur un service WordPress qui crée ton site. Et donc là, c'est les serveurs de WordPress qui gèrent tes contenus. Enfin, c'est toi qui les gères, mais ils sont hébergés sur les espaces de WordPress. Ou tu peux créer toi-même ton site, c'est-à-dire installer WordPress sur ton propre serveur web. Et auquel cas, ton site, il est présent sur ton serveur web. Pour un podcast, c'est un peu pareil. L'hébergement des fichiers audio, il peut se faire à plusieurs endroits. Il peut se faire sur ton site. Il peut se faire donc sur un serveur que tu maîtrises évidemment, et il peut se faire sur des services comme Anchor que j'utilise actuellement là, ou même évidemment sur Spreaker. C'est d'ailleurs tout le principe de ces services style Spreaker ou Anchor, c'est qu'ils te permettent eux de gérer, ils hébergent tes fichiers, c'est-à-dire qu'ils les mettent à disposition d'Internet, ils mettent à disposition d'Internet tes fichiers audio qui constituent tes épisodes. À ça se rajoute le fichier RSS. Alors, il faut s'imaginer que le fichier RSS, pour un podcast, c'est un petit peu comme un livre qui contiendrait des chapitres. Je m'explique. Quand tu as un livre, tu as une série de chapitres qui sont tes contenus. Et ton podcast, c'est pareil. C'est un flux RSS. Et chaque chapitre serait un épisode audio de ton podcast. L'avantage énorme du podcast par rapport au livre, c'est simple, c'est que tu peux rajouter des chapitres, voire en enlever, voire les modifier, puisqu'il est tout à fait possible, a posteriori, dans la mise en ligne d'un épisode de podcast, de modifier, j'en sais rien, le titre, ou de rajouter des éléments dans les notes de l'émission, ce qui permet de rendre les choses dynamiques. Évidemment, c'est la moindre des choses quand on fait un truc sur Internet. Alors, dans le cas de Spreaker, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils t'hébergent les fichiers, donc ils les gardent sur leur serveur pour te les mettre à disposition et les mettre à disposition du monde entier, mais ils te créent aussi ce flux RSS sans même que tu t'en rendes compte. Et donc, quand tu mets en ligne un nouvel épisode sur Spreaker, en fait, ce qu'on voit pas, ou en tout cas pas au premier abord quand on découvre le podcasting, c'est qu'ils te mettent à disposition ton fichier audio sur leur serveur, mais ils te créent aussi l'épisode dans le flux RSS qui va bien. Et donc, c'est eux qui créent ce fichier RSS de catalogue d'épisodes, un petit peu comme mon livre avec son sommaire et sa liste de chapitres. Et ils te l'hébergent et donc ils te le mettent à diffusion. C'est le cas aussi de Anchor. C'est pas forcément immédiatement le cas pour ton serveur web. Si tu mets juste tes fichiers MP3 audio sur ton serveur, il te manque toujours la construction de ce flux RSS avec un outil. Alors évidemment, quand tu héberges tes fichiers audio sur ton site, tu as d'autres solutions que Spreaker pour créer un fichier RSS qui va lister tous tes fichiers audio. Par exemple, moi, la solution que j'utilise, c'est un plugin qui s'appelle PowerPress sur WordPress. J'ai un article sur ce sujet dans mon blog. Et donc évidemment, je t'invite à t'y référer si jamais tu as besoin de creuser cet aspect-là. Ça, c'est ça, c'est vraiment la notion d'hébergement du fichier et de la mise à disposition auprès du monde entier, en fait, qui pourrait s'abonner à ton podcast. En fait, quand les gens s'abonnent à ton podcast via une application, ils s'abonnent au flux RSS qui est soit créé sur ton serveur, il y en a même qui le font à la main, le fichier RSS, soit qui est mis à disposition par un service comme Spreaker. Alors, pourquoi utiliser un service comme Spreaker? C'est qu'en fait, au lieu de payer un serveur où tu vas devoir gérer potentiellement de la bande passante, du stockage de fichiers, en fait, tu te poses pas toutes ces questions techniques-là. Et Spreaker, c'est un moyen de d'héberger tous tes fichiers au même endroit sans te prendre la tête sur l'aspect technique, et donc en ayant à l'esprit le fait que
En gros, voilà, il gère un petit peu tout pour toi. Ça peut avoir des inconvénients, pas rédhibitoires, mais je ne vais pas m'étaler à ce stade-là, puisque l'idée, c'est vraiment d'en faire un schéma simple. Alors maintenant, comment ça se retrouve ton podcast sur iTunes, ou plutôt sur Apple Podcast, par exemple? Mais on pourrait prendre aussi le cas de Spotify. Donc, eux, ils n'hébergent pas les fichiers. Et c'est hyper important d'ailleurs que ces plateformes-là n'hébergent pas les fichiers et donc ne récupèrent pas tes fichiers en les copiant et en les mettant sur leur serveur. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un moyen en plus aux gens dans le monde d'aller lire ton fichier RSS et donc de s'abonner à ton podcast. En gros, ce que eux récupèrent, c'est uniquement le contenu de ton flux RSS. Et donc, dans ton flux RSS de ton podcast, si tu rajoutes un épisode, eh ben automatiquement, Apple Podcasts, Spotify et les autres vont répercuter ce nouvel épisode sur leur plateforme. Mais attention, ils vont pas dupliquer ton fichier audio. Il est toujours disponible sur ton serveur ou sur Spreaker ou en tout cas là où tu l'as mis en ligne au départ. En tout cas, on l'espère parce que si demain il y a des applications de lecteurs de podcasts qui devaient récupérer les fichiers audio, ça poserait problème parce que les podcasteurs seraient plus maîtres d'une certaine manière du contenu qu'ils mettent à disposition. Allez, quelqu'un de mal intentionné pourrait très bien dire « Moi, je crée une application de lecture de podcast qui est mieux que toutes les autres pour une fonction X ou Y. » Et ce que je fais, c'est que je récupère les fichiers audio et je ne pointe pas vers le serveur des podcasteurs, mais je récupère les fichiers audio, je les duplique et je rajoute de la pub dedans. Donc ça pourrait évidemment être un peu gênant. Au passage, c'est pour me prémunir un petit peu de ce genre de situation et de me donner des armes entre guillemets légales que dans le cadre de la mise à jour du site techcafé.fr, j'ai rajouté en footer une mention relative à la licence que j'associe en Creative Commons au podcast. Et c'est une mention que je vais rajouter aussi dans les notes de l'émission d'ailleurs. En automatique, ce sera visible pour tout le monde assez facilement. Alors ça garantit pas à 100% qu'il y aura jamais de problème tel que je l'ai décrit, mais en tout cas, ça donne un petit peu un cadre légal au départ. Voilà, donc je pense que je t'ai expliqué à ce stade la différence entre l'hébergement des fichiers audio et la mise à disposition sur des catalogues. Donc les catalogues lisent ton contenu sous la forme du fichier RSS et pointent vers tes fichiers audio. Ça, c'est la différence fondamentale. Et alors, tu posais la question aussi dans un autre message de Auphonic. À quoi sert Auphonic? Eh ben, c'est hyper simple. En fait, Auphonic, il est très connu dans le monde du podcast pour niveler la qualité du son. C'est-à-dire que tout ton graphe de son va faire qu'il va être à peu près cohérent sur un seul et même volume, ce qui va éviter d'avoir des épisodes de podcast où tu as un intervenant qui gueule à mort et qui sature presque. Enfin, saturé, ça continuera à saturer, mais en tout cas, qui d'un point de vue volume est très 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 fort, alors que tu as d'autres intervenants qu'on n'entendrait pas et pour lesquels il faudrait remonter le volume. Donc tu vois, il y a des podcasts comme ça dans lesquels on doit jouer avec le volume sonore, et ça, on peut pas dire, c'est pas confortable. Ça peut arriver encore d'ailleurs dans d'anciens épisodes de Tech Café où je n'utilisais pas cette méthode, surtout que j'associe plusieurs pistes sonores qui ont été enregistrées avec des moyens différents, donc ça unifie un petit peu le volume sonore. Mais surtout, en fait, ça, c'est pas le truc le plus intéressant dans le cas d'Auphonic. Dans le cas d'Auphonic, ce qui est le plus pratique, c'est que en envoyant ton fichier audio sur Auphonic, il va certes appliquer ce traitement, mais il va aussi envoyer ton fichier partout où tu l'auras demandé. Tu peux d'ailleurs faire des pré-réglages différents par podcast dans Auphonic, et ton fichier va être distribué. Alors par exemple, dans ton cas, tu pourrais très bien dire j'envoie mon fichier audio sur Auphonic, il est optimisé au niveau du volume sonore, mais en plus on lui rajoute des métadonnées, on lui rajoute la petite vignette de l'épisode dans le fichier MP3, ce que des lecteurs de podcast arrivent à lire, ça l'envoie automatiquement en backup sur Google Drive, ça l'envoie sur Spreaker, et puis pourquoi pas, ça génère une vidéo sur ton compte YouTube pour que les gens aient à disposition ton podcast sur la plateforme YouTube en vidéo. Alors, une vidéo avec une image statique, mais ça partira automatiquement sur YouTube. Auphonic intègre aussi la possibilité de faire de la reconnaissance de texte, ce qui peut être intéressant pour travailler un peu le référencement naturel des podcasts qui sont en audio et qui ne sont pas à ce jour, notamment en France, indexés et compris par Google. Donc on peut peut-être les aider par rapport à ça. Mais la reconnaissance de texte n'est pas encore hyper performante à l'appui des plugins qui sont mis à disposition. Mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose de possible. Et c'est un petit peu pour ça que c'est compliqué comme ça spontanément de parler d'ophonique. Parce que c'est certes un outil pour améliorer la qualité du son, mais c'est surtout un outil qui te permet de gagner en temps et qui te permet justement de gérer cet aspect hébergement de fichiers audio à droite à gauche. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Surtout si c'est pas le cas, dis-le moi. Et puis en tout cas, si vous qui écoutez le podcast, vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations par rapport à ça, eh ben surtout n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez réagir à ce podcast sur Encore, mais je vais aussi créer dans les jours à venir un article sur mon blog pour clarifier un petit peu ce sujet. J'espère que ce sera plus clair pour vous. Dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.